Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique auto sur Radio Pont. On parle souvent du luxe à la française, mais qu'en est-il du haut de gamme à la française ? Eh bien, c'est pas terrible. Et pourtant, il y a eu des marques prestigieuses comme Facel Vega, Bugatti, Delage ou encore Delahaye. Fut même une époque, vers 1920, où Renault était en concurrence avec Rolls-Royce, rendez-vous compte. C'était aussi l'époque où l'on achetait son châssis pour le faire carrosser par des établissements de renom comme Labourdette, Chaperon ou encore Brandone. Avec la guerre, la plupart ont disparu. Facel Vega s'éteindra, lui, en 1964. Ne restait plus que la Citroën DS et la Renault Frégate qui se situaient dans le moyen haut de gamme. C'est Peugeot et Renault qui se lancent en 1975. Peugeot, de son côté, va proposer la 604. Il justifie sa décision de proposer un haut de gamme. Écoutez.
Ces véhicules étrangers couvrent dans sa totalité le marché automobile gamme de notre pays. Or, une étude de marché révèle que 70% de sa clientèle est prête à acheter un véhicule français. Cette même étude montre aussi que parmi les constructeurs français, c'est Peugeot qui possède l'image de marque idéale pour sortir un modèle prestigieux.
La voiture est présentée au Salon de Genève en mars 1975.
Cette année, 15 voitures que Automoto essaiera ultérieurement étaient proposées à la presse et aux visiteurs. Mais le grand événement fut la présentation imprévue de celle que personne n'attendait encore, la 604 Peugeot. La 604 Peugeot est une 6 cylindres. La carrosserie est assez différente de la 504, les lignes sont plus cassées. C'est une simplace, 15 chevaux, longueur 4,72 m, 4 vitesses boîte automatique, vitesse annoncée par le constructeur, 182 km/h.
Depuis la guerre, les constructeurs français ne disposaient que de moteurs 4 cylindres. Peugeot, Renault et Volvo vont s'associer pour concevoir et produire des moteurs 8 cylindres et 6 cylindres, d'où le nom de moteur PRV. Le choc pétrolier aura raison du 8 cylindres, seul le V6 sera conservé. Malheureusement, le 6 cylindres était une version amputée du 8 cylindres, il est bancal et offre de faibles performances pour une consommation élevée. C'est ce moteur qui équipe la Peugeot 604, et les journalistes de l'époque ne s'y sont pas trompés.
La 604 Peugeot vient d'être présentée aux spécialistes automobiles. Jacques Farinck l'a essayé pour vous sur la route.
Le confort est exceptionnel. C'est vraiment le gros point fort de la voiture. Malgré une position de conduite un peu perfectible, côté moteur, le tableau est un peu moins brillant. La valeur maximale du couple moteur qui traduit l'effort de traction de la voiture culmine à 21 mètres kg. C'est assez modeste pour une voiture de 15 chevaux. Il en résulte des accélérations moyennes relativement bonnes, disons, lorsqu'on joue avec le levier de vitesse. Par contre, les reprises sont décevantes si l'on considère que l'on a une voiture de 15 chevaux. La consommation dépend beaucoup du style de conduite. N'oublions pas qu'on a une voiture qui fait pratiquement 1500 kg en ordre de marche. Et selon le profil et la vitesse, il faut compter entre 14 et 20 litres au 100 km.
Par souci d'économie, Peugeot reprend la plateforme et les portières de la 504. Élégante et confortable, mais avec une finition moyenne pour un tarif élevé, auquel se rajoutent des problèmes de corrosion, le succès ne sera pas au rendez-vous. 153 000 exemplaires vendus en 10 ans. Même moteur, mais philosophie différente chez Renault, avec la Renault 30. Elle est également présentée au Salon de Genève 1975.
La nouvelle Renault, la R30 TS, est une berline simplace, 4 portes, 6 cylindres en V, direction assistée. Pour la première fois au monde, une voiture de grande diffusion est présentée avec le tout à l'avant. Vitesse annoncée, 185 km/h. La R30 ne se veut pas une voiture de maître, mais une grande routière qui touchera un public international, bénéficiant de l'implantation Renault à travers le monde.
Basée sur la Renault 20, c'est une berline moins statutaire que la 604 qui propose un haillon. Pénalisée par la consommation de son V6 PRV, elle ne se vendra qu'à 136 000 exemplaires en 8 ans de carrière. À la même période, chez Citroën, on s'en sort mieux avec la CX, 1 170 000 exemplaires écoulés, toutes versions confondues, durant 17 ans. 1980 sera une triste année pour le haut de gamme français, avec la Talbot Agora.
Une voiture des temps modernes qui préfigure l'automobile de demain, la Tagora. L'homme à la Tagora est un responsable, un décideur qui aime l'efficacité et qui a le goût de la réussite.
Ne quittez pas. Monsieur, c'est un appel.
Il sait, pour le choix de sa voiture, mettre la technologie au service du plaisir.
Ah, comment vas-tu? Demain, oui. Il paraît qu'ils ont vu des sangliers. Il sera là aussi? Formidable. Je vais vous épater, j'ai une nouvelle voiture. Une quoi? Ça, c'est une surprise.
La technicité et la grande fiabilité de la Tagora, alliées à un très haut niveau d'équipement, une finition luxueuse, une recherche esthétique dans les moindres détails, vont faire de la nouvelle Talbot la rivale certaine des plus prestigieuses berlines européennes.
Peugeot, récent propriétaire de Simca, qu'il a rebaptisé Talbot, va achever un projet déjà en cours, la C9, alias la Tagora. Dessinée en Angleterre, la voiture a des lignes modernes, assez cubiques. Spacieuse, bien équipée, elle aurait pu avoir une belle carrière malgré une finition quelconque. Pour réduire les coûts, Peugeot va la doter du châssis de la future 505 plus petite. En résulte des roues trop à l'intérieur de la caisse, d'où un effet disgracieux. Le flou autour de la marque Talbot, nouvellement créée, la finition décevante et le peu de motivation du réseau Peugeot pour vendre une concurrente de la 604 auront des effets dévastateurs. Seulement 20 133 exemplaires vendus en 3 ans. Un gouffre financier et un drame social.
Si rien de nouveau n'intervient d'ici lundi, les 16 000 employés de Talbot Poissy ne seront plus payés et la société automobile Talbot sera purement et simplement fermée. Cette décision, vous le savez déjà, a été prise hier par la direction du groupe Peugeot-Talbot, mettant en cause le gouvernement et lui reprochant ses atermoiements dans cette affaire, sa lenteur à prendre position à propos du plan de restructuration prévu et entraînant 2 900 suppressions d'emplois. Il y a la crise, mais tout de même, le marché automobile reste relativement porteur. Il n'est donc pas inutile de revenir en arrière, de retracer l'histoire de Talbot, ex-Simca Chrysler, ex-Simca tout court, qui avait en 1978 été absorbé par le groupe Peugeot. Laurent Carenzo.
Coup de tonnerre en août 78, le très sage constructeur de Sochaux s'offre les filiales de Chrysler en Europe et la marque française Simca. Joli coup mais risqué, dit-on alors dans les milieux automobiles. C'est l'époque où l'on affirme que pour être compétitif, les fabricants automobiles doivent avoir une taille mondiale. C'est ce que réalise le groupe PSA en devenant le premier constructeur européen. Hélas, il y a déjà une épine dans la patte du lion. Simca est, depuis sa création, la reine des mariages ratés, successivement avec Ford, Fiat et Chrysler. Comme pour exorciser cette fatalité historique, on change le nom. Simca Chrysler devient en 1979 Talbot. Tout est à faire pour cette nouvelle marque qui n'a pas l'image de la grande série. Pas de chance, c'est déjà l'époque de la récession automobile mondiale. La plupart des constructeurs vont connaître une diminution de leur production, 17% en moyenne. Mais chez Talbot, la chute sera vertigineuse, 47% en 4 ans. Comment expliquer cet effondrement? Il y a la crise, bien sûr, on l'a vu. Mais le changement de nom a été mal compris par la clientèle et la fusion des réseaux de vente Peugeot-Talbot, début 81, n'a fait qu'accélérer le mouvement, permettant aux constructeurs étrangers de s'implanter à moindre frais. De plus, les modèles Talbot végètent pour des raisons difficiles à expliquer. Seule la Samba a connu un bref moment en 82, une certaine vogue. Mais là aussi, les conflits sociaux de l'année dernière ont porté atteinte à l'image fragile de la marque. Bref, le cumul des handicaps, des malchances, des erreurs stratégiques commerciales et sociales laisse rêveur. À tel point que certains syndicats comme la CGT se demandent s'il n'y a pas, au bout du compte, une volonté délibérée de Peugeot de liquider Talbot le plus rapidement possible. Le choix de 1978 s'est donc révélé désastreux sur le plan financier et dramatique sur le plan social.
Les dernières centaines d'exemplaires seront discrètement bradées en Espagne. En 1989, nouvelle offensive Peugeot-Citroën sur le haut de gamme. Citroën présente la XM. Après 55 mois de gestation, la voiture est présentée en grande pompe. 15 000 membres du réseau, issus de 53 pays, sont conviés à Lyon le 23 mai 1989 pour un immense show. L'enjeu est d'importance. Citroën a investi 7,5 milliards de francs. Une centaine de prototypes ont dû être construits. Les responsables de la marque sont gonflés à bloc, comme en témoignent ces extraits du meeting de Lyon.
Le 23 mai 1989 restera pour tous une date historique. Près de 15 000 personnes ont participé à Lyon au lancement de Citroën XM. Citroën XM marque pour chacun d'entre nous le renouveau de Citroën et la confiance qu'a la marque en son avenir et en l'avenir de son réseau. Le challenge que nous nous sommes fixés, c'est 30 000 Citroën XM d'ici la fin de l'année. Près de 7 000 sont déjà vendus. La Citroën XM ne laisse personne indifférent. Et je pense que vous allez concrétiser cette opinion générale par de nombreuses prises de commandes.
1988, Citroën a produit et bien sûr vendu 800 000 voitures. C'était le record absolu. Nous allons le battre cette année en 89. Le challenge, c'est près de 900 000. Alors je pense que ça va être 900 000.
Donc cette voiture, vous voulez déjà en faire une star?
Une star, je crois qu'elle l'est déjà parce que on a tous lu les comptes rendus de presse suite à un simple communiqué.
Un haut de gamme réussi, c'est un enchaînement vertueux de conséquences heureuses, à la fois au plan de l'image et au plan commercial.
Jacques Calvé, avec sa voix si particulière, vante le style de la XM.
Et puis c'est cette beauté dont je vous parlais, à vous couper le souffle et qui, à tout le moins, m'a coupé le mien.
La concurrence germanique est clairement visée et le réseau commercial est abreuvé de vidéos à la gloire de la XM.
Voici la Mercedes 300 E24. La BMW 535i. La Peugeot 605 SV24. Et la Citroën XM V624. Elles sont toutes là. Première sensation de volume et d'habitabilité pour cette Mercedes. Mais taille des phares et hauteur de caisse, par exemple, lui donnent de la lourdeur dans la ligne. C'est un style qui commence à dater. Coup de lifting sportif pour la motorisation, certes. Mais on respire ici un grand air de classicisme. La tradition jusqu'à l'ennui. Statut social oblige. De l'élégance et du raffinement pour la robe de la BMW, mais bien peu d'audace dans la conception. Et on découvre vite les défauts de personnalité qui viennent ternir cette première impression. Cette voiture est lourde, totalement germanique dans son esprit. Chez elle, on investit, y compris dans le poids de la caisse. La réussite peut devenir bien pesante. On doit savoir prendre des risques pour se créer une personnalité. Pour séduire à tout prix, la Peugeot 605 veut faire comme les autres. Ses cousines germaines. Résultat, elle ne sort pas du rang. Il aurait fallu plus d'originalité au modèle et plus de crédibilité haut de gamme à la marque. Elle se serait alors distinguée de son image de grosse 405. Le style Citroën XM V624 confirme un caractère raffiné où se marient puissance et élégance. La ligne, superbement profilée, montre toutes les caractéristiques et les atouts de sa race.
Chose curieuse, cette communication vise également sa demi-sœur la Peugeot et on trouve des vidéos visant à cibler la clientèle Peugeot pour différents modèles de la gamme Citroën. Pas sûr que cette concurrence interne soit bonne pour les résultats du groupe PSA. La voiture est élue voiture de l'année en 1990. Son design, même s'il a été récompensé, est loin de faire l'unanimité. Dès le début de la commercialisation, nombre de problèmes électriques ont au fait de ternir la réputation du modèle. Les contrôles qualité sont insuffisants à ce niveau de gamme. Sur ses 11 ans de carrière, la voiture ne se vendra en moyenne qu'à 30 000 unités par an, loin des 100 000 espérés pour rentabiliser le modèle. Et c'est une double peine, car le réseau, soucieux de conserver sa clientèle, sacrifiait 10 000 francs de reprise sur les XM en occasion, afin de pouvoir faire une offre raisonnable à ses clients. Chez Peugeot, cette même année 1989, on présente la 605.
Pousser les limites, pour conquérir de nouveaux territoires, pour voir plus loin, Peugeot a créé la 605. Peugeot 605, la volonté de voir grand.
Si elle partage la plateforme de la XM, le style est beaucoup plus sobre et sûrement plus à même de séduire et rassurer la clientèle aisée, souvent conservatrice. Tout comme la XM, la 605 va reprendre le V6 PRV. Mais il semblerait que ce journaliste de M6 avait un don de voyance. Écoutez bien sa conclusion.
La sobriété est de mise, malgré la présence de bois sur le tableau de bord. Finition impeccable, le cuir équipant la SV-24 est de série, siège électrique, ordinateur, etc. L'ensemble est donc tout à fait à la hauteur des ambitions affichées de la SV-24. À un détail près cependant, la tôle du coffre est légère, trop légère, et donne à elle seule des idées noires quant à la solidité de l'ensemble.
Et il avait eu le nez creux. Outre les problèmes électriques identiques à ceux de la XM, la liste des défauts à corriger est une véritable liste à la Prévert.
Commutateur déclignotant.
Serrage des balais est suivi. Protection des fils des projecteurs. Serrage du berceau de train avant.
Réservoir de direction assistée.
Kit de recyclage ABR Bendix.
Connecteur du module d'allumage.
Carburateur.
Vanne de régulation ralentie. Calculateur d'injection allumage.
Collecteur d'échappement. Connecteur de potentiomètre papillon. Protection thermique du réservoir de carburant.
Collecteur d'échappement V6.
Direction à assistance variable.
Kit antiparasitage FM.
Pignon d'entraînement. Pompe à huile.
Dispositif anti-hachis.
Raccord de liaison, turbo-échangeur.
Boîtier de préchauffage. Commutateur déclignotant.
Serrage des balais est suivi. Protection des fils des projecteurs. Serrage du berceau de train avant.
Réservoir de direction assistée.
Kit de recyclage ABR Bendix.
Sonde de l'évaporateur. Alarme. Pare-boue avant gauche.
Tenue du couvercle de coffre.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tous les éléments de la voiture sont concernés. Malgré la réactivité du service après-vente, le mal est fait. Seulement 254 000 exemplaires vendus en 10 ans et une réputation durablement ternie. C'est au tour de Renault de remplacer son haut de gamme en présentant la Renault 25. En net progrès par rapport au Renault 20 et Renault 30, la voiture a de nombreux atouts, confortable, performante et bien dessinée. La marque avait pour objectif d'augmenter sa présence sur le haut de gamme.
L'enjeu pour la R25, c'est le créneau du haut de gamme. 16% du marché européen, soit 1 600 000 véhicules l'an dernier. Actuellement, dans cette catégorie, 5% seulement des véhicules sont des Renault, R20 et R30. L'objectif de la régie avec la R25 est d'atteindre 9% de ce marché fin 84. Le pari est ambitieux, d'autant que les constructeurs français n'ont jamais vraiment réussi avec les grandes routières.
Consciente des lacunes du passé dans ce domaine, Renault communique sur la qualité.
Pour ce nouveau modèle, l'effort a été porté sur la qualité de la fabrication. Et pour ça, des bureaux d'études de la régie ont fait appel à des méthodes qui ne sont pas sans rappeler ce qui se passe au Japon. Le reportage de Jean-Claude Renault.
Avant-première sur la R25 pour les 9600 travailleurs de Sandouville qui la découvrent par petits groupes. C'est normal, ce sont eux qui vont la fabriquer. Mais c'est inhabituel. La régie, avant de séduire le client, veut convaincre ses ouvriers sur le thème « La qualité du haut de gamme, c'est d'abord vous ». Les concurrentes de la R25, Renault les montre à son personnel. Ici, une BMW 524. Chacun est invité à comparer. Objectif, améliorer le produit maison. C'est aussi l'objectif de la mini-chaîne expérimentale où sont formés 1300 monteurs avec l'aide d'un système vidéo. Il s'agit d'être prêt en mars quand la R25 sera commercialisée.
Manque de chance, la qualité n'est pas au rendez-vous. Loin de là. Les premiers possesseurs de Renault 25 voulant changer une roue arrière ont vu la vitre arrière se briser. Les problèmes électriques sont nombreux. L'ordinateur de bord parlant, une nouveauté pour l'époque, devenait parfois intarissable.
Porte arrière gauche, mal fermée. Porte arrière droite, mal fermée. Porte conducteur, mal fermée. Coffre mal fermé. Capot moteur, mal fermé. Fonction véhicule sous surveillance.
Résultat, l'image à l'international n'est plus bonne. En revanche, la voiture fera une belle carrière en France. 1999, 10 ans après la 605, Peugeot remet le couvert avec la 607. La voiture est présentée à la presse en grande pompe.
Soyez les bienvenus dans ces somptueux paysages de la Jordanie qui ont inspiré avant nous les tournages des films d'Indiana Jones. Mais nous, c'est sur la route que nous avons rendez-vous pour essayer cette nouvelle Peugeot, la 607, qui a pour ambition d'être la première berline du haut de gamme d'un constructeur généraliste. 135 voitures, dont celle-ci sortie tout juste des chaînes d'assemblage de Sochaux, acheminées par avion cargo au bord de la mer Rouge en 10 vols successifs. Peugeot a véritablement déclenché une opération commando afin de présenter pendant 4 mois ici à Aqaba en Jordanie sa nouvelle star, le nouveau vaisseau amiral de sa gamme, la 607, à 8000 journalistes et responsables mondiaux de son réseau venus pour l'occasion des 5 continents.
L'accueil est très favorable, même si un doute subsiste.
Techniquement, la 607 n'a rien à envier à ses rivales allemandes, notamment dans le domaine de la sécurité passive et active. Avec la 607, Peugeot semble avoir réussi son retour dans le haut de gamme. Il reste à vérifier que sa carrière commerciale ne sera pas entachée comme sa devancière de problèmes de fiabilité.
La marque, pour sa part, nourrissait des ambitions tout à fait justifiées.
Pas facile de succéder à un bide. 10 ans après le lancement raté de la 605, la 607 affirme les nouvelles ambitions de Peugeot dans le haut de gamme. Avec 45 000 ventes escomptées chaque année, le constructeur français s'est fixé un objectif raisonnable en accord avec le succès commercial du coupé 406. Avec la 607, Peugeot entend rassurer ses fidèles et convaincre les sceptiques.
Manque d'image et de motorisation noble, les résultats sont décevants. Sur 11 ans, la voiture s'est vendue à 15 500 unités par an en moyenne pour un objectif de 45 000. Le coût de développement a été plus de 500 millions d'euros. En 2005, Citroën lance la C6, son nouveau haut de gamme, 5 ans après l'arrêt de la XM. Sur la route, il y a peu de chances que vous en ayez croisé une, en revanche, on l'a souvent vue dans les cortèges présidentiels. Une ligne originale, bien dans l'esprit novateur de la marque, saluée par les designers encore aujourd'hui. Des moteurs performants pour l'époque, un affichage tête haute et la suspension hydropneumatique, elle avait tout pour réussir. Et pourtant, ce fut le plus grand échec de Citroën sous l'ère Peugeot. Prévue pour être produite à 30 000 exemplaires par an, il ne se vendra en tout que 23 384 exemplaires en 7 ans. Ce journaliste de l'Autojournal a peut-être un début de réponse.
Pas de quoi justifier quand même un tarif aussi élevé, 44 150 euros. C'est plus cher qu'une classe E220 CDI de même puissance, moins bien équipée mais bien plus facile à revendre dans quelques années.
Le délai entre le prototype et la commercialisation, soit 5 ans, a conduit à une offre moteur majoritairement diesel à contre-courant de la tendance et un système d'infodivertissement obsolète. En 2002, c'est Renault qui présente la Velsatis, un investissement à 630 millions d'euros. Rien qu'en voyant la voiture, on comprend tout de suite qu'il va y avoir un problème. Les journalistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés.
Vous semblez circonspect, nous aussi. Un capot plat, un regard étroit, une calandre en fanon de baleine, et c'est toute la Velsatis qui semble inspirée par le cétacé. À l'évidence, la face manque d'élégance. La proue, elle, affiche davantage de raffinement ou d'originalité. Au global, les plus indulgents parleront de caractère, les autres de mauvais goût. Mais si c'était la seule façon de se démarquer de la concurrence, alors acceptons-en le principe et louons l'audace. Hormis quelques traits communs avec le coupé espace Avantime, la limousine Renault ne ressemble à rien de référencé 100 ans.
Par contre, chez Renault, on est plein de certitudes.
Pour son nouveau haut de gamme, Renault joue la carte de la différence et de l'audace dans les formes.
Je pense qu'il n'y a pas de pire risque dans l'industrie automobile que de copier ou d'imiter. Je pense que ce qui fait le succès de Renault aujourd'hui, c'est sa capacité d'innovation et d'invention.
Le rôle de Renault n'est pas de, dans le haut de gamme, de faire une copie des voitures allemandes. Et que si on veut réussir en Europe et pas simplement réussir en France, il faut avoir une voix particulière. C'est vraiment notre façon d'aller chercher les clients qu'on appelle les non-conformistes. Il y a des gens qui ne sont pas anticonformistes, mais ils veulent des petites différences.
Eh bien, le pire risque, comme disait à l'époque Louis Schweitzer, PDG de Renault, ils l'ont pris de plein fouet. 62 000 exemplaires vendus en 7 ans pour un coût de 630 millions d'euros. En 2010, Renault va remplacer la Velsatis par la Renault Latitude. À l'inverse de la Velsatis, la ligne est d'une banalité déconcertante. Dérivée de la Samsung SM5 et basée sur une plateforme de Laguna, elle n'a pas rencontré un grand succès en France et sa carrière s'arrête en 2015. Seule consolation, le coût d'élaboration a été minime. Nouvelle tentative en 2015 avec la Talisman, Une belle voiture, confortable, mais tombée en plein boom des SUV. Si la ligne plaît, la finition déçoit.
Après, vrai qu'à l'intérieur aussi, et ça, il faut en parler, là, on entre dans un domaine. En plus, nous, on avait des finitions initiales, haut de gamme.
Alors, les finitions sont pas top. Moi, je suis pas. Les plastiques, au niveau médian, c'est pas au niveau.
Ça a été la très mauvaise surprise. C'est-à-dire que quand on rentre, bon, c'est vrai que ça en jette, cette grosse console centrale, etc., les sièges et tout. Et puis tout d'un coup, on regarde les plastiques sur la console centrale, enfin sur le côté, là. Mmh. Et là, c'est du plastique à deux balles. Désolée de dire ça. Et là, on se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça ? Surtout pendant toute la conf, ils ont dit, on a beaucoup travaillé sur la qualité perçue, etc. Et là, on voit un truc,
C'est des plastiques durs, c'est des plastiques qui vont se rayer, c'est des plastiques qui vont faire mal, parce qu'ils sont, positionnés exactement là où le conducteur met son genou. Les commandes, il y a un petit peu de jeu dedans.
Renault dit avoir fait beaucoup d'efforts en termes de qualité intérieure. Autant le dire tout de suite, on est très déçus. Pourquoi ? Parce que sur ce modèle aujourd'hui qu'on a devant les yeux, il y a des plastiques durs partout, en bas de console centrale. Alors on nous dit que c'est un modèle de pré-série, je veux bien, mais franchement, par rapport à la concurrence, notamment allemande, c'est très décevant. On s'attendait à beaucoup mieux, là d'autant plus qu'on est aujourd'hui à bord dans la finition initiale Paris, le haut de gamme. Mais vous voyez, tout en bas là, bas de console centrale, tout ça c'est du dur et c'est un petit peu décevant quand même.
Mal armé en termes de moteur, de transmission et de technologie, c'est un nouvel échec. Renault peine à en écouler 15 000 par an, quand Skoda écoule 220 000 Octavia. Pour la marque aux losanges, c'est une longue série noire, car outre la Talisman, il y a l'échec de l'Espace, de la Wing, de la Laguna, de la Fluence, de la Koleos et du Kangoo Bebop. En fait, l'échec du haut de gamme semble assez simple à comprendre. Il y a d'une part un manque de fiabilité chronique, qui ne pardonne pas à ce niveau de gamme. Des choix stylistiques plus que douteux. D'une manière générale, des voitures conçues à l'économie avec des matériaux souvent peu flatteurs. La faute en incombe clairement aux décisionnaires. Écoutez ce responsable de chez Renault qui parle de la Talisman.
Sans version vraiment musclée, qu'en sera-t-il des ventes à l'export, notamment en Allemagne ?
Aujourd'hui, la gamme que nous avons répond au cœur du marché, c'est-à-dire entre 110 et 200 chevaux, avec une offre de départ à 95 grammes de CO2. Le niveau de CO2 est un paramètre qui est regardé au premier ordre par toutes les flottes.
Il se trompe. Viser le cœur de marché, c'est bien, mais un modèle doit susciter l'envie. Et pour cela, il faut des versions qui se démarquent par leur niveau de performance et d'équipement et qui créent le rêve. La motivation principale devrait être de faire de bonnes voitures et non pas de gagner de l'argent en faisant des économies à tout prix, car au final, la qualité et la finition en pâtissent. La marque DS se lance actuellement sur le marché haut de gamme. Souhaitons-lui plus de chance. C'est la fin de cette chronique auto. Bonne journée à tous sur Radio Pont.